RFI.
Modèle Sport sur RFI. Christophe Diremzian.
Bonsoir à tous, Mondial Sport en direct jusqu'à 22h, temps universel comme chaque week-end. Pour tout savoir, d'abord ce soir, sur la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019, l'Égypte facile contre le Niger, l'étonnante Mauritanie confirme contre le Burkina Faso, le Cameroun, futur pays hôte, joue aussi pour l'honneur. Mais la première du duo Zeedorf-Kluivert à la tête des Lions Indomptables n'a pas été une grande réussite. Seulement un partout aux Comores, tous les résultats de cette journée dans un instant. Colchonello, puis Blues, maintenant merengue et plus que jamais Diable Rouge. Thibaut Courtois tente depuis cet été de s'installer durablement devant les buts du Real Madrid. Sa deuxième vie en Espagne et ses souvenirs encore un peu douloureux de la Coupe du Monde avec la Belgique. Il dit tout à Pierre Chaperon. Il est devenu l'icône sportive de la contestation des violences et des discriminations à l'encontre des Noirs aux États-Unis. Colin Kaepernick, paria du football américain, s'est tout de même invité au lancement de la nouvelle saison de NFL à travers une publicité d'un célèbre équipementier. Un pied de nez qui n'a pas manqué de relancer la controverse, Loïc Piala nous en parlera. Enfin, le Sénégal en passe d'obtenir le feu vert du CIO pour accueillir des Jeux Olympiques en 2022. Mais dans leur version pour les 15-18 ans, un test de confiance envers l'Afrique sur sa capacité à voir plus grand un jour, qui sait. Allez, c'est donc reparti pour les éliminatoires de la CAN 2019, 15 mois après la première journée tout de même, une Coupe du Monde plus tard. Voici donc la deuxième journée, Christophe Jousset, bonsoir.
Bonsoir Christophe.
13 matchs ont lieu aujourd'hui et c'est l'Égypte qui a marqué les esprits.
Oui, l'Égypte qui marque les esprits et qui marque le Niger au fer rouge, 6-0 pour les Pharaons dans leur stade de Borg El Arab en banlieue d'Alexandrie. Et une sacrée performance pour Mohamed Salah, 2 buts, 2 passes décisives et encore il a manqué un pénalty. La star de Liverpool montre en tout cas que ses mésaventures en équipe nationale, sorties dès le premier tour du mondial, bisbille avec les dirigeants, sont derrière lui. Au classement de ce groupe, l'Égypte a 3 points. Elle partage la tête avec la Tunisie, mais la Tunisie ne joue que demain au Swaziland, ou plutôt dans l'ex-Swaziland, puisqu'on doit dire désormais Eswatini, c'est le nouveau nom de ce royaume. À propos de classement, on rappelle la règle, les deux premiers de chaque groupe iront à la CAN 2019, sauf dans le groupe du Cameroun, le pays organisateur, où là c'est un peu particulier.
Le Cameroun justement n'a pas été à la fête aujourd'hui, accroché aux Comores un peu partout.
Des buts africains très compliqués pour le nouveau sélectionneur des Lions Indomptables, le néerlandais Clarence Zeedorf. Le Cameroun, champion d'Afrique en titre, a été mené pendant 65 minutes et n'égalise qu'à 10 minutes de la fin par Stéphane Bauken, l'attaquant d'Angers. Ouverture du score à la 15e par l'attaquant de l'Étoile Rouge de Belgrade, le Comorien El Fardou Ben Nabouan, qui était à la réception d'un centre en retrait. L'ancien international français Jean-Alain Boumsong, qui est désormais l'un des adjoints du sélectionneur Clarence Zeedorf, relativise la portée de ce résultat nul pour les Camerounais, compte tenu, selon lui, notamment de l'état du terrain.
Oui, on s'entendait à une rencontre relativement difficile, hein, parce qu'on sait que cette équipe comorienne peut être très très bonne à domicile. Elle a déjà effectué un bon résultat ici contre le Ghana. Et elle a bien préparé la rencontre et on a eu quelques difficultés en première période et on a bien rectifié le tir et en seconde période. C'est une pelouse qui était difficile. C'est vrai qu'on aurait voulu commencer par une victoire. Moi, c'est une mise en place. Il y a un nouveau staff qui est là. Il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Mais un match nul au regard de la seconde période qui a été de meilleure facture et laisse entrevoir de meilleurs résultats dans l'avenir, surtout si les conditions pour travailler sont bonnes et propices à exploiter les talents qu'il y a dans cette équipe.
Jean-Alain Boumsong au micro d'Anzizam Changama. Le Cameroun est premier de son groupe avec 4 points, un groupe où le Maroc est encore en train de jouer à Casablanca. Le Maroc mène 2-0 face au Malawi à un quart d'heure de la fin. C'est Ziyech qui a ouvert la marque dès la 3e minute de jeu et Nesri qui a doublé la mise pour les hommes d'Hervé Renard. Dans ce groupe, on qualifiera pour la phase finale une ou deux équipes en fonction du classement final du Cameroun, pays organisateur de la CAN 2019.
Chez les grosses pointures, belle victoire du Nigeria.
Oui, une victoire 3-0 aux Seychelles pour les Super Eagles, alors que les deux co-leaders du groupe, l'Afrique du Sud et la Libye, faisaient 0-0 à Durban. Et voilà donc la Libye en tête du groupe après 2 journées, dans un groupe où finalement les 2 favoris naturels sont le Nigeria et l'Afrique du Sud. En revanche, ça ne va pas pour le Ghana. Le Ghana battu 1-0 au Kenya sur un but contre son camp de Nicolas Opoku, le jeune défenseur de l'Udinese qui avait été transféré cet été du club africain de Tunis. Le Kenya, c'est à noter, a joué la dernière demi-heure à 10, alors que le Ghana a joué encore une fois sans les frères Ayou, André et Jordan, et sans Gian Asamoah.
On va saluer maintenant la Mauritanie, la seule équipe pour l'instant à avoir gagné ses deux premiers matchs éliminatoires.
Oui, c'était un Nouakchott tout à l'heure. La Mauritanie a battu le Burkina Faso 2-0. Grosse bourde du gardien burkinabé, Hervé Kofi, qui a coûté le premier but aux étalons, but de Diakité. Et deuxième but signé Camara. Le score final était acquis à la mi-temps. 6 points en 2 matchs, les affaires des Morabitoun sont bien engagées, mais le sélectionneur Corentin Martins reste tranquille, la route est encore longue.
Aujourd'hui on a fait un très très bon match, les joueurs ont été grands dans l'effort, dans le pressing, dans le travail défensif, dans le travail offensif, parce qu'on s'est créé beaucoup d'occasions, donc félicitations aux joueurs. Maintenant il reste encore d'autres matchs, on n'a que 6 points, je pense qu'il faudra au moins 9 points pour au minimum être deuxième. Donc il reste encore des points à prendre. Il faut bien se préparer pour le match suivant, tout simplement, et essayer de refaire la même performance qu'aujourd'hui.
Corentin Martins avec Gabriel Barrois. Gabriel Barrois qui a trouvé les étalons méconnaissables. L'équipe a pas mal changé, c'est vrai, ces derniers mois. Le milieu des étalons, Abdourazak Traoré, semble en tout cas un peu touché.
C'est difficile de perdre déjà 3 points. Mais bon, comme on l'a dit, la qualification ce jour-ci, je crois 4 matchs encore. Donc on a encore la chance de pouvoir se ressaisir et continuer à travailler. Surtout ne pas faire les mêmes erreurs encore. Parce qu'aujourd'hui, ça a été une erreur de notre part. Et bon, la payer cash, là, on va se concentrer sur l'avenir. Essayer de préparer les matchs le mieux possible. Et puis voilà. Essayer de récupérer les points qu'on a récupérés et surtout les prochains matchs à ne pas les perdre. On a essayé de booster avec le groupe qu'on avait, mais bon, malheureusement ça n'a pas marché. On espère que la prochaine fois sera bonne, voilà.
Et ça fait 3 points pour le Burkina, 6 points pour la Mauritanie et l'Angola et le Botswana s'affrontent demain.
Et puis des images saisissantes en Gambie cet après-midi. Une partie du public était tout près de la pelouse pour assister au nul 1-1 entre la Gambie et l'Algérie.
Oui, il n'y avait pas assez de place pour tout le monde dans les tribunes. Sans doute des gens qui sont entrés sans billets. Et en conséquence, des centaines, voire des milliers de spectateurs étaient au bord du terrain, même si le calme a régné. Le coup d'envoi, pour des raisons de sécurité, les Algériens refusaient de jouer. Mmh. Eh bien, le coup d'envoi a quand même été donné, finalement, avec 1h30 de retard sur un terrain entouré par un cordon de forces de l'ordre. Et dans ce contexte particulier, Bounedja a ouvert le score pour les Fennecs en début de deuxième période, mais Cizey a répliqué presque aussitôt. Écoutez ce qu'a pensé de tout ça l'Algérien Yassine Brahimi.
Les conditions étaient très compliquées, que ça soit avant le match ou surtout sur le terrain. Le terrain était quasiment impraticable. Voilà, les conditions étaient très très difficiles, on le savait. Maintenant, on ne va pas se plaindre, on n'est pas là pour se plaindre. C'est vrai qu'on est venu, comme le coach l'a dit, pour gagner, pour prendre les 3 points. Donc on est un petit peu déçus. Et la seule satisfaction, une très très grosse satisfaction, c'est la solidarité qu'on a eue aujourd'hui. Et le fait que voilà, que tout le monde a répondu présent comme des hommes. C'est sûr que les matchs comme ça, dans des conditions très très compliquées, se jouent sur des détails. C'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir marquer, ce qui n'était pas facile. On a pu le voir, il y a eu très très peu d'occasions. Et c'est vrai que prendre un but 30 secondes après, c'est sûr que c'est des petites erreurs d'inattention, mais voilà, aujourd'hui en tout cas je suis vraiment fier de faire partie de ce groupe, parce que voilà, aujourd'hui on a vu qu'on était solidaires. À l'avenir, je pense que toutes ces erreurs, on va les effacer, et après des matchs comme ça, on va grandir.
Yassine Brahimi au micro de Claire Bargelès. L'Algérie première de son groupe avec 4 points, un point de plus que le Bénin. Les écureuils du Bénin qui font partie de ces sélections qui ont changé de sélectionneur récemment. Michel Dussuyer fait son retour au poste et ça commence demain pour lui et son équipe par un déplacement chez le voisin togolais, le Togo, qui a une obligation de résultat après avoir perdu lors de la première journée contre l'Algérie, comme l'en éclou.
Dernier de leur groupe au sorti de la première journée avec 0 point, les éperviers abordent cette deuxième journée dos au mur. Une victoire est impérative, comme le souligne le défenseur Guéné Dakonam.
C'est un match qui est très important pour nous. L'état d'esprit est là. La motivation est là. On va dans le meilleur de nous-mêmes et essayer de gagner ce match.
Ce match à domicile s'annonce déterminant, estime de son côté le milieu de terrain Mathieu de Séville.
C'est un match à domicile. Ça va nous permettre de nous rattraper notre première journée. Il va falloir être très costaud pour pouvoir engranger un maximum de points. J'espère qu'on va en tirer un avantage.
Pour Claude Leroy, le sélectionneur des Éperviers, le Togo a les moyens de bâtir une équipe conquérante.
Ils ont une grosse équipe. Les composants de cette équipe béninoise, ce sont des vrais bons joueurs. Mais nous aussi, on a des bons joueurs. Il n'y a pas que les Béninois. Nous aussi, on a des joueurs qui jouent en première division dans plein de championnats européens, qui sont titulaires, qui s'imposent de plus en plus. Il y a des jeunes qui arrivent. Donc, il y a moyen de bâtir une équipe conquérante. Il va falloir qu'on soit très conquérant.
Le stade de Kégué étant en réfection, c'est le stade municipal de Lomé avec seulement 12 000 places qui accueille ce duel Togo-Bénin. Comme l'a éclos Lomé RFI.
On rappelle que le foot béninois est dans la tourmente avec les suites de la disqualification de l'équipe nationale des moins de 17 ans dans les éliminatoires de la CAN de cette catégorie. Parce qu'un test IRM a montré que 10 joueurs avaient plus de 17 ans. Un épisode vécu comme une honte nationale. Hier, 17 personnes ont été écrouées au Bénin, parmi lesquelles les 10 joueurs concernés. 3 membres du staff technique et aussi 4 officiels, dont l'ancien président de la fédération béninoise, Enjorin Moucharaf.
Direction maintenant Libreville. Christophe, où le Gabon a été tenu en échec par le Burundi.
Oui, un partout entre les Panthères et les Hirondelles. Aubameyang, à la 75e minute, a répondu à Berahino, qui faisait ses débuts aujourd'hui avec le Burundi, après avoir joué pas loin de 50 matchs chez les jeunes en équipe d'Angleterre. L'attaquant de Stoke City, Saïdo Berahino, a donc signé son entrée. Du côté des Panthères, le manager général Daniel Cousin ne cache pas sa déception.
Effectivement, il y a de la déception, mais on est des professionnels. Les professionnels, on doit se remettre en question et repartir de l'avant. C'est pas fini. La première période, on a été un peu trop timide. On a aussi, je sais pas si c'est la faute du terrain, parce que le terrain était pas en très bon état, mais on a eu du mal à cadrer nos tirs. On a été un peu maladroit devant le but. Et dans la dernière passe aussi, ils jouaient assez regroupés derrière. Ils nous ont fermé un peu les espaces. On n'a pas réussi en première mi-temps à trouver la faille, mais surtout à les inquiéter. Plus en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, on était beaucoup plus entreprenant et ça a payé.
Donc, l'équipe du Burundi, est-ce qu'elle vous a surpris ?
Non, pas du tout. On a fait une erreur, ils ont marqué un but. Ils jouaient sur nos erreurs. En fait, ils ont beaucoup joué sur nos erreurs. Je pense qu'on a un peu donné le bâton pour se faire battre.
Et Daniel Cousin avec Fritz Koum. Le Burundi se retrouve en tête ce soir avec 4 points, 1 point de plus que le Mali, qui joue demain au Soudan du Sud.
On passe au groupe A avec la victoire courte de la Guinée équatoriale sur le Soudan.
Oui, 1-0 avec un but du capitaine Emilio Nsoué à la 30e minute de jeu dans ce groupe où l'on attend maintenant demain à Tana, Madagascar, Sénégal. Le Sénégal n'oublie pas qu'en éliminatoire de la Coupe du Monde en 2015, eh bien, il avait été mené 2-0 sur ce terrain avant d'arracher le nul de partout. Les Lions de la Teranga reviennent dans la même enceinte. Ce n'est pas un billard, loin de là. Mais le sélectionneur Aliou Cissé ne veut pas s'attarder sur ce sujet.
Deux aspects seront importants. Je crois que c'est un, la concentration, deux, l'efficacité. Je sais que quand je parle d'efficacité, on pense souvent, vous allez penser que c'est efficacité offensive. Mais j'ai envie de dire que c'est efficacité défensive aussi, parce que le terrain ne nous permettra pas de manquer de concentration. Donc c'est de faire les gestes justes défensivement et faire les gestes justes offensivement aussi. Je crois qu'aujourd'hui, évoluer en Afrique, c'est jouer dans des contextes comme ça, c'est jouer dans des terrains comme ça, mais si le terrain n'est pas bon pour le Sénégal, il ne le sera pas non plus pour l'équipe malgache. Donc j'ai envie de dire que c'est pas une excuse. On est tous sur le même enceinte. Ça sera difficile pour eux, ça sera difficile pour nous.
Aliou Cissé au micro de Laure Verneau. Autre résultat aujourd'hui dans le groupe K, 1-1 entre Namibie et Zambie, 2-2 entre le Mozambique et la Guinée-Bissau. Dans le groupe L, 0-0 entre l'Ouganda et la Tanzanie, le Lesotho et le Cap-Vert jouent demain. Et puis on suivra aussi demain Congo-Zimbabwe, Libéria-RDC, ça c'est dans le groupe G. Et enfin dans le groupe H, Guinée-RCA et Rwanda-Côte d'Ivoire.
Et on rappelle Christophe que tous les résultats de cette deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019 sont à retrouver sur notre site internet africfoot.rfi.fr.
On passe à l'Europe. Pour le football, c'est la toute nouvelle Ligue des Nations qui continue d'occuper les sélections. Cette nouvelle compétition de l'UEFA disputée par division ou ligue, de la A pour les ténors à la D pour les petites nations. L'équipe de France l'a inaugurée jeudi par un 0-0 en Allemagne et enchaînera contre les Pays-Bas au Stade de France demain pour la première fois devant ses supporters depuis son sacre mondial. Match de nouveau à suivre en intégralité sur RFI à partir de 18h45, temps universel, avec Antoine Grenier et Olivier Pron. Ce samedi, 7 matchs au programme, 2 dans la Ligue A, à commencer par la belle affiche entre l'Angleterre et l'Espagne, et une victoire de la Roja de Luis Enrique, 2-1 à Wembley. De son côté, la Suisse a écrasé l'Islande littéralement 6-0. Mardi, ce sera la Belgique d'entrée en lice chez les Islandais, justement les Diables Rouges, 3e de la Coupe du Monde, avec leur gardien Thibaut Courtois, qui depuis a ouvert un nouveau chapitre de son histoire personnelle en repartant en Espagne pour rejoindre le Real Madrid, 4 ans après avoir quitté l'Atlético. Notre correspondant Pierre Chaperon a rencontré le nouveau portier merengue, qui a mis apparemment plus de temps à se remettre de son élimination par les Bleus en demi-finale qu'à se réadapter à l'environnement espagnol.
Heureux, souriant, apaisé, qu'il semble loin le temps où Thibaut Courtois ne digérait pas la demi-finale de Coupe du Monde perdue face à la France 1-0. Le gardien de but de la Belgique garde toujours dans un coin de sa tête cette aventure achevée malgré tout par une troisième place, même s'il se consacre maintenant à l'avenir avec les Diables Rouges.
Logiquement, ça reste une petite douleur, mais bon, je crois que la France a mérité de gagner aussi. Il n'y a pas de souci, évidemment, mais quand tu es si proche d'un titre qui est quand même peut-être le plus grand tu peux gagner dans ta carrière, il y a la déception, mais bon, la déception s'est passée et maintenant on va avec l'équipe nationale au prochain projet, et c'est maintenant le Nations League après le championnat d'Europe.
Une sélection qui a un peu changé côté staff technique. Thierry Henry a pris du galon, devenant le premier entraîneur adjoint des Diables Rouges. Une bonne nouvelle selon Thibaut Courtois.
Oui, moi je suis très heureux, je m'entends très bien avec Thierry, je crois que ça va être un très bon entraîneur principal, et maintenant qu'il est deuxième, il va se mettre encore plus en place dans l'équipe, mais je crois qu'il est très fort, ouais.
En signant le plus gros transfert de l'été du Real Madrid, Courtois retrouve également un Français champion du monde 2018, Raphaël Varane. Mais pas de rancœur entre les deux. Au contraire, l'ancien joueur du RC Lens a aidé son coéquipier belge à s'intégrer.
Non, je l'ai félicité. Après, je crois qu'on s'entend très bien. Aussi, il m'a donné des petits conseils. Fais ça, on se parle bien, tout ça. Et c'est très bien passé. Je crois qu'il y avait une bonne communication entre nous et ça s'est très bien. Ouais, on parle en espagnol. Ouais, si on parle un contre un, c'est en français, mais dans le match, je parle en espagnol naturellement. Mais c'est toujours chouette de s'y parler en français, naturellement.
Il faut dire que la concurrence sera forte au sein du Real. Le triple champion d'Europe des clubs débute la saison avec deux gardien de classe mondiale, Keylor Navas, merengue depuis 2014, élu meilleur gardien de la dernière Ligue des Champions, sera en concurrence avec le Belge. C'est d'ailleurs le Costaricien qui a débuté la saison en Super Coupe d'Europe et en championnat, avant que Courtois soit titularisé face à Leganés la semaine dernière. Une concurrence normale pour un grand club selon Courtois, qui y voit surtout un casse-tête pour son entraîneur Julen Lopetegui.
Je crois qu'on a deux, même trois bons gardiens. On donne le mieux de nous chaque entraînement. On fait tout pour que l'entraîneur ait des choix difficiles à faire. Après, c'est lui qui décide, c'est lui le boss et c'est lui qui décide qui joue. Mais je crois que les deux, et quasi aussi, on donne le meilleur de nous à l'entraînement. Je crois que juste pour une équipe comme Real Madrid, c'est logique qu'il y a des compétences dans tous les postes. Et après, je crois que pour l'équipe, c'est mieux qu'il y a toujours un grand gardien.
Quoi qu'il en soit, l'ancien gardien de Genk, de l'Atlético de Madrid et de Chelsea est heureux de revenir dans la capitale espagnole. Il en profite pour se rapprocher de ses enfants, rester à Madrid, un bonheur communicatif d'être de retour au pays de Cervantes.
Ouais, je suis très content de pouvoir jouer ici pour Real Madrid. J'ai déjà été ici souvent à l'autre côté, mais pour jouer pour Real Madrid avec ses supporters ici à Bernabéu, c'est très spécial. Tu dois te mettre en place, tu vois, parce que aussi j'ai pas joué un match à un mois et demi, parce que l'entraînement c'est un truc, mais les matchs c'est un autre truc. Mais je me sentais très bien, je connais le foot ici, j'ai joué ici 3 ans, donc c'est pas que j'ai oublié, que c'est effacé de ma tête.
La pression sera forte pour le numéro 25 du Real Madrid, rapporter des trophées et vivre sous la pression de la concurrence à son poste. Qu'à cela ne tienne, Thibaut Courtois avait trop envie de revenir à Madrid pour relever un nouveau challenge dans un championnat qu'il connaît bien. Pierre Chaperon, Madrid, RFI.
Et dans 15 jours, Thibaut Courtois aura peut-être l'occasion d'oublier sa déception de la Coupe du Monde, puisqu'il fait partie des 3 finalistes pour le trophée FIFA de meilleur gardien de but 2018, aux côtés d'Hugo Lloris et du Danois Kasper Schmeichel. La récompense sera remise précisément le 24 septembre à Londres. C'est la reprise du football américain cette semaine outre-Atlantique. La NFL et ses 32 équipes réinvestissent les terrains pour se lancer dans la conquête d'un titre détenu depuis février par les Eagles de Philadelphie après leur victoire dans le Super Bowl. Les champions sortants ont d'ailleurs dominé 18 à 12 leurs adversaires lors du match inaugural de jeudi Atlanta. Mais presque comme chaque année, la rentrée du sport le plus populaire aux États-Unis est accompagnée d'une polémique avec la diffusion pendant le match d'une publicité de l'équipementier Nike, d'une pub donc mettant en scène Colin Kaepernick, l'ancienne star des 49ers de San Francisco, polémique sur laquelle on va s'attarder avec notre correspondant à Los Angeles en direct. Loïc Piala, bonsoir.
Bonsoir, Estaf.
Colin Kaepernick, c'est un personnage, on le sait, qui divise depuis l'été 2016 quand il a mis un genou à terre pendant l'hymne américain pour protester contre les violences policières. Alors le choix de Nike, évidemment, fait beaucoup parler, mais la publicité en elle-même n'a rien de révoltant, on est bien d'accord.
Ah non, pas du tout, hein. C'est plutôt un message positif pour fêter les 30 ans du célèbre slogan « Just do it ». La pub permet surtout d'entendre Colin Kaepernick, muet depuis plus d'un an dans les médias, entre autres, parce que sa carrière est à l'arrêt aujourd'hui à cause de cette affaire. Alors le spot dure 2 minutes, on ne va pas vous diffuser en intégralité, mais voilà à peu près ce que ça donne.
If people say your dreams are crazy,
si les gens vous disent que vos rêves sont fous,
if they laugh at what you think you
s'ils se moquent de ce que vous pensez pouvoir accomplir,
good.
C'est bien, ne changez rien.
Stay that way. Believe in
Il faut croire en quelque chose, même si ça veut dire tout sacrifier.
Even if it means sacrificing everything.
Alors au-delà du message, Loïc, c'est vraiment avoir choisi Colin Kaepernick comme tête d'affiche qui a agacé les conservateurs, non?
Oui, je vous le rappelle, le geste de Kaepernick, s'agenouiller pendant l'hymne, ça a été vu par une partie de l'Amérique comme un manque de respect envers le drapeau et surtout les militaires qu'ils défendent. C'est pour ça qu'il est détesté par une partie du pays. Alors sur les réseaux sociaux, on multiplie les appels au boycott, des gens se filment en train de brûler leurs chaussures ou déchirer le logo à la virgule de leurs vêtements. Écoutez par exemple les commentaires de Tucker Carlson, l'un des co-présentateurs vedettes de la chaîne conservatrice Fox News dans l'émission Fox and Friends, l'émission préférée de Donald Trump.
This is an attack.
C'est une attaque contre le pays. Vous avez tous ces cadres dans un bureau qui ont décidé qu'ils allaient tirer profit d'attaques contre le pays, et ça devrait nous inquiéter. Qu'est-ce qu'il se passe quand la classe dirigeante se met à attaquer le système qui lui permet d'exister? Tout s'écroule.
On a quand même un peu l'impression que Nike a relancé la polémique avec cette campagne de pub, Loïc.
Alors pas vraiment, parce que l'affaire a commencé il y a 2 ans, c'est vrai, mais elle refait régulièrement la une, déjà parce que Donald Trump aime bien en parler en meeting, surtout parce que l'injustice et les violences policières n'ont pas disparu, donc les athlètes continuent de s'exprimer. Il y a aussi le litige entre Kaepernick et la NFL. Le joueur n'a plus de club depuis 1 an, il attaque la Ligue en justice en accusant tous les propriétaires de s'être mis d'accord pour ne pas l'engager. Et puis, un pas plus tard que cet été, la NFL a formalisé sa politique d'avant-match avec les joueurs. Si vous ne voulez pas vous lever pendant l'hymne, eh bien vous restez au vestiaire.
En tout cas, la marque se doutait bien que faire de Kaepernick sa tête d'affiche ferait scandale.
Oui, beaucoup, beaucoup d'Américains aiment la publicité et son message, mais personne n'est dupe. L'annonce a été faite cette semaine pour la reprise de la NFL. Nike a calculé son coût, COUP, mais aussi COUT. La couverture médiatique de l'affaire a déjà représenté l'équivalent de 40 millions de dollars en publicité pour la marque, selon une étude. La publicité est gratuite, donc. Je ne sais pas si vous connaissez Trevor Noah, c'est un humoriste sud-africain. On en a parlé en France quand il a dit que l'Afrique avait aussi gagné la Coupe du Monde de football, vu le nombre de joueurs noirs dans l'équipe. Et dans son émission, le Daily Show, il a plutôt bien résumé ce que beaucoup pensent ici quand il voit Nike se poser en défenseur de la justice sociale.
I love the ad.
J'adore la pub. J'ai un peu peur, cela dit, que les gens se laissent facilement convaincre par des corporations qui, tout d'un coup, se mettent à avoir une position politique. Le but des corporations, c'est de gagner de l'argent et elles défendent d'abord leurs intérêts. À ceux qui crient « Ouais, je vais m'acheter des Nike parce qu'ils soutiennent un tel », je dis que Nike et les autres voient aussi une tendance qui peut leur apporter.
En tout cas, Loïc, ça illustre une fois de plus le niveau de division dans l'Amérique de Donald Trump.
Donald Trump d'ailleurs qui a commenté la polémique, évidemment. Pour lui, Nike envoie un message terrible. Des sportifs qui parlent de politique, ce n'est pas nouveau. Mais dans cette Amérique-là, on les interroge quand même très souvent sur le sujet. Alors Tiger Woods, Tom Brady, André Agassi évitent les déclarations de choc. D'autres comme LeBron James attaquent eux Trump frontalement. Après tout, les sportifs sont des citoyens comme les autres.
Merci beaucoup Loïc Piala en direct de Los Angeles. Ça n'est pas encore officiel, mais c'est tout comme le Sénégal va devenir le premier pays africain à accueillir une compétition olympique en 2022. La commission exécutive du CIO a en effet donné sa préférence au pays pour l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse, créés en 2010 à l'intention des athlètes en herbe âgés de 15 à 18 ans. Cette recommandation sera validée formellement début octobre à Buenos Aires à l'occasion de la session du CIO, juste avant le début d'ailleurs de l'édition 2018 de ces JOJ. Ce choix du Sénégal, fait au détriment de la Tunisie, du Nigeria et du Botswana, finalise en fait la volonté de l'instance olympique et de son président, Thomas Barr, de réserver l'organisation de cette édition à l'Afrique, une forme de reconnaissance de l'apport du continent au sport mondial, comme le pense aussi l'Algérien Mustapha Beraf, le président par intérim de l'ACNOA, l'Association des Comités Nationaux Olympiques Africains. Mustapha Beraf.
L'Afrique a produit beaucoup de très grands champions olympiques et de très grands champions du monde. Elle fournit une bonne majorité d'athlètes qui peuplent aujourd'hui beaucoup d'équipes nationales de tous les pays. Et je pense que c'est toute une génération qui va maintenant se voir dans une autre dimension, puisque d'abord, il y a 4 pays qui ont été au début retenus, c'est important. Ça veut dire que quand même, il y a 4 grands pays africains qui ont été à la hauteur.
Le Sénégal était un bon candidat. En quoi, d'après vous, il était meilleur que le Botswana, le Nigeria ou la Tunisie?
Le Sénégal est un pays connu et reconnu pour être un exemple vivant de l'Afrique. Il y a, moi, j'ai eu l'occasion dernièrement de visiter le Sénégal. Il y a de grands projets et de grands travaux qui sont initiés. Les Jeux de la Jeunesse, bon, ont une dimension plus réduite que les Jeux Olympiques. Mais je pense que le fait que ce soit le Sénégal, ça peut encore davantage booster cet événement, classé parmi les grands événements de ce monde. Et je pense que le Sénégal va profiter de cette occasion unique qui lui est offerte pour s'inscrire dans une stratégie de développement très perspicace. Et ce sera le grand bonheur du Sénégal et de toute l'Afrique.
Cette organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse en Afrique peut-elle servir de tremplin, de laboratoire à une candidature aux vrais grands Jeux Olympiques en 2032 ou au-delà?
J'espère que peut-être qu'on sera plus là, mais je suis sûr que ça sera un tremplin et je suis sûr que le Sénégal sera à la hauteur et cela permettra certainement à d'autres nations africaines de s'inscrire dans une logique de candidature pour les Jeux Olympiques. Et honnêtement, l'Afrique avec ses 54 pays, avec son nombre d'habitants qui est parmi les plus grands au monde, après la Chine, je pense, mérite amplement d'organiser les Jeux Olympiques.
Mustapha Beraf, le président par intérim de l'ACNOA à propos de l'organisation. On rappelle que l'élection du président définitif aura lieu en novembre à Tokyo. Des infos en bref avant de se séparer. La principale information de cette fin de soirée, c'est la victoire de la japonaise Naomi Osaka en finale de l'US Open féminin. La japonaise 19e joueuse mondiale, tout juste âgée de 20 ans, a battu la reine Serena Williams donc en finale 2-7, 6-2, 6-4. Une finale marquée par un incident assez rare à ce niveau de la compétition. C'est un jeu de pénalité qui a été octroyé à Serena Williams, qui a complètement craqué à l'occasion de ce match, notamment dans le deuxième set, alors que Osaka menait 4-3. Serena Williams a traité ni plus ni moins l'arbitre de chaise, le portugais Carlos Ramos, de voleur, et il a déclaré: je ne triche pas pour gagner, je préfère perdre, vous me devez des excuses. Elle a donc complètement craqué lors de cette fin de match. Elle a donc dû causer sa défaite en quelque sorte sur cette fin de match. Donc première victoire en grand chelem de la toute jeune Naomi Osaka, de père haïtien et de mère japonaise, à tout juste 20 ans. Et puis toujours en tennis, eh bien c'est confirmé, Rafael Nadal est forfait pour la demi-finale de Coupe Davis contre la France le week-end prochain à Lille. Hier, l'Espagnol, qui était victime de douleurs au genou droit, avait abandonné dans sa demi-finale à Flushing Meadows face à l'Argentin Juan Martín del Potro, alors qu'il était mené 2-1. Et puis la victoire de Simon Yates à l'arrivée de la 14e étape du Tour d'Espagne, jugée en altitude à l'est
Andrés Prairez dans le nord du pays. Le Britannique a devancé le Colombien Miguel Ángel López, ce qui lui permet de reprendre le maillot rouge de leader qu'il avait dû rendre jeudi à l'Espagnol Jesús Herrada. Ce soir, il précède Valverde de 20 secondes au classement général. Voilà pour Mondial Sport aujourd'hui. Merci à Hélène Avril pour la réalisation. Rendez-vous demain à la même heure avec la suite notamment des résultats des éliminatoires de la CAN 2019. Dans un instant, 24 heures en France.